13h30 sur Radio Judaïka, tout de suite, c'est l'heure de retrouver le commentaire de la paracha de la semaine avec Jean Chekroun et le grand rabbin Harold Avraham Weil.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine sur Radio Judaïka Strasbourg. Cette semaine, l'émission est spéciale encore. Aujourd'hui, cette émission sera consacrée essentiellement à la fête de Kippour qui débutera mardi soir. À mes côtés, comme chaque semaine, Harold Avraham Weil, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour Jean.
Avant de commencer cette émission, nous vous présentons, monsieur le grand rabbin, à tous nos auditeurs les vœux pour cette nouvelle année.
Oui, nouvelle année 5783, hein, de fraîchement débutée, qui a bien débuté, en tout cas, vraiment on le souhaite. Ce Rosh Hashanah s'est très bien passé dans l'ensemble des synagogues et on souhaite que l'on puisse mettre à profit ces quelques jours qui nous séparent encore de la date de Yom Kippour, afin de pouvoir bénéficier des largesses du Tout-Puissant durant toute l'année. En tout cas, c'est vraiment ce que nous souhaitons à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Radio Judaïka, et de manière bien plus large, bien sûr, à l'ensemble de la communauté.
Alors, cette semaine, ce sera Shabbat Tshuva, Parasha Vayeler, l'allumage des bougies pour ce soir, entre 17h57 et 18h56, et demain, la fin du Shabbat, à partir de 19h57. Ce sont évidemment les horaires qui sont valables pour Strasbourg et sa région. Je le disais en début d'intervention, monsieur Rabin, c'est demain Shabbat Tshuva, le Shabbat du retour, si on peut le traduire ainsi. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce Shabbat ?
Alors techniquement, ce qu'il a de particulier, c'est que nous avons l'habitude, en tout cas le rabbin de la synagogue a l'habitude d'y effectuer ce jour-là une dracha, c'est-à-dire un serment tout à fait particulier, qui a pour objectif d'expliquer un petit peu l'importance de ces jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, de se préparer de la meilleure des manières, on va dire à la fois spirituellement et de manière même plus pratique et plus technique à cette journée de Yom Kippour. Donc cette dracha a lieu de manière traditionnelle ou bien pendant l'office du matin, ou éventuellement l'après-midi, avant l'office de Mincha. Et ce Shabbat Tshuva est bien sûr l'occasion, comme c'est le cas de tous les jours de la semaine qui sépare la fête de Rosh Hashanah de celle de Yom Kippour, hein, de mener un petit peu une introspection par rapport à la journée du Shabbat en particulier. Vous le savez, les sept jours de la semaine qui séparent la fête de Rosh Hashanah de la fête de Yom Kippour, eh bien, nous permettent, quelle que soit la configuration du calendrier, de pouvoir avoir une introspection particulière par rapport à chacun des jours de la semaine, du dimanche au Shabbat inclus. Et chaque journée donc, est l'occasion de rattraper un petit peu tous les écarts qui auraient pu être commis durant la journée en question, hein, durant tous les dimanches de l'année, tous les lundis de l'année, tous les mardis de l'année. Shabbat Tshuva, c'est un petit peu l'occasion de réparer tout ce que nous aurions pu faire de manière un petit peu incorrecte durant la journée du Shabbat. Or, on connaît l'importance tout à fait capitale de cette journée du Shabbat dans notre semaine. Donc, c'est l'occasion, on va dire, plus que jamais, d'être attentif aux lois du Shabbat, d'éventuellement faire un effort tout à fait particulier, un peu plus étudier ce jour-là, pourquoi pas étudier avec ses enfants, partager. Vous savez, c'est à la portée de chacune et chacun d'entre nous, je tiens à le dire à cette antenne. Aujourd'hui, nous avons, notamment grâce à tout ce qui circule sur Internet, un accès très très facile au texte, aux commentaires, et il suffit de simplement éventuellement lire lors du repas de Shabbat, du vendredi soir ou de Shabbat midi, un petit commentaire sur la paracha, des fois de quelques secondes ou de quelques minutes, ou d'écouter le tic-tac du consistoire, ou de répéter éventuellement quelques idées de l'émission de la paracha de la semaine. Voilà, ça prend parfois simplement quelques secondes ou quelques minutes et ça peut transformer toute l'atmosphère du Shabbat.
Alors justement, demain on lira quand même la paracha de Vayeler, un petit mot sur cette paracha, un petit résumé de quoi on parle ?
Alors le résumé va être très très court Jean, puisque cette paracha est la plus courte de toute l'année. C'est une paracha qui ne comporte que 30 versets.
Donc n'arrivez pas à l'heure à la synagogue.
Exactement, c'est-à-dire, vous l'avez dit de manière positive, j'allais le dire sous une autre forme, hein, n'arrivez pas en retard demain à la synagogue, sinon vous risquez d'arriver à l'Haftara ou directement à l'office de Moussaf, puisque cette paracha donc est extrêmement courte. Elle est courte, mais elle est forte, elle est très puissante cette paracha, puisque nous assistons en quelque sorte, bien tout simplement, à l'au revoir de Moshe Rabbeinu, hein, Moshe qui a été le plus grand dirigeant de l'histoire du peuple d'Israël. Il incarne quelque chose de tout à fait particulier. Et Moïse, Moshe qui sait qu'il va quitter ce monde dans quelques instants aux portes d'Eretz Israël, eh bien va passer le pouvoir à Yehoshua, à Josué, et il va donner ses dernières recommandations dans cette paracha de Vayeler. Et vraiment, en un mot, eh bien cette paracha, donc il va écrire notamment un Sefer Torah qui va être ensuite transmis aux sages. Donc on est vraiment dans cette paracha, on s'inscrit dans la transmission avant le bouquet final et les bénédictions de Moïse aux différentes tribus dans la paracha de Vezot HaBeracha. Et ce qu'il y a de très puissant dans les paroles que Moshe va transmettre au peuple, et notamment à Josué, hein, où il va l'encourager, Chazak Vematz, il a des mots très très forts, hein, soit fort, soit courageux. Et donc il invite véritablement Yehoshua à relever le défi énorme qui l'attend avec l'entrée en Eretz Israël, la conquête d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. Eh bien, c'est simplement ce sont les deux premiers mots de la paracha, Jean. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour résumer un petit peu toute la puissance et la quintessence de cette paracha. Vayeler Moshe. Que Moshe est allé, et la paracha d'ailleurs ne nous précise pas où il est allé, mais ce qui est très très fort ici, c'est que nous le savons, nous l'apprenons, et notamment à travers de nos commentateurs traditionnels, Moshe avait ce jour-là 120 ans, jour pour jour, c'est le dernier jour de sa vie. Moshe sait qu'il va mourir dans quelques instants, mais il a encore la force de marcher, il a encore la force d'avancer, il a encore la force de construire. Moshe a rentabilisé chaque seconde de son existence, et il ne s'est pas arrêté, même lorsqu'il savait qu'il ne lui restait plus que quelques instants à vivre. Tant qu'il peut donner, tant qu'il peut servir encore la collectivité, eh bien, Moshe le fait de manière totalement désintéressée.
On dit qu'il a
c'est
prié jusqu'à la fin de sa vie.
Jusqu'à la fin de sa vie, bon, pour rentrer en Eretz Israël, ouais. Mais vraiment au-delà de ses prières pour rentrer en Eretz Israël, ce qui incarne toute la dimension extraordinaire de Moshe Rabbeinu, c'est vraiment cette aptitude qui était la sienne à ne jamais rien lâcher et à exploiter chaque seconde de son existence jusqu'au dernier moment. Va Yeler Moshe, il a 120 ans, il est fatigué, il est usé par les récriminations du peuple, il est sans doute aussi fragilisé, hein, par le fait de savoir qu'il va quitter ce monde, et tous les tzadikim le sont, et peut-être encore plus que ceux qui ne sont pas forcément de grands justes, parce qu'ils sont conscients de l'enjeu, et donc ils se rendent compte qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait prêts pour quitter ce monde, et malgré tout, eh bien, Moshe ne perd pas de temps, il continue à avancer. Donc, dans la vie, il faut avancer.
Voilà. Mardi soir, ce sera donc la fête de Yom Kippour, début du jeûne et Kol Nidre à 18h44. J'espère que vous, c'est bon. Le début du jeûne et Kol Nidre, c'est, ça se suit ?
Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, c'est un moment concomitant, et on va poser la question. C'est vrai que c'est difficile quand nous faisons les horaires de faire démarrer l'office de Kol Nidre plus tard, parce que cet office de Kol Nidre en principe doit démarrer un petit peu avant le coucher du soleil. Or, nous le savons, le début du jeûne et l'allumage des bougies, hein, donc, et qui coïncident, eh bien, ont lieu 18 minutes avant justement le coucher du soleil.
Donc, 18h44.
Donc c'est pour ça que nous avons fixé dans la plupart des synagogues Kol Nidre à 18h45. Bon, les gens s'arrêtent de manger quelques minutes avant, ou ils apportent une bouteille d'eau avec eux dans la voiture en venant à la synagogue pour profiter des derniers moments, et puis on rentre dans ce jeûne que l'on souhaite le plus agréable et le plus facile possible pour
et
tout
la
monde.
Fin du jeûne, ce sera à 19h47.
Ouais, cette année
mercredi.
C'est tôt, voilà, c'est l'avantage, on va dire, on commence un peu plus tôt, voilà. Mais on termine plus tôt, ce qui est très appréciable pour beaucoup de personnes, voilà, parce que c'est souvent la longueur de la journée de Kippour qui est plus difficile à supporter que le fait de commencer un peu plus tôt la veille.
Alors pour Kippour, il y a deux prières supplémentaires qu'il n'y a dans aucune autre fête, c'est le Kol Nidre au début, donc on en va en parler, et de Neïla à la fin. C'est quoi ces deux prières-là, Kol Nidre et Neïla ?
Alors, Jean, vous avez raison de le préciser, nous avons cinq prières durant la journée traditionnelle de Kippour, donc les quatre classiques que nous connaissons, que nous récitons tous les Shabbats, hein, c'est-à-dire les trois prières quotidiennes, Ma'ariv, Shacharit, donc, ou Arvit, Ma'ariv, Shacharit, l'office du matin, et Mincha, l'office de l'après-midi. La quatrième prière, qui est celle de Moussaf, que nous rajoutons tous les jours de Rosh Chodesh, ainsi que les jours de fête, et bien sûr, les jours de Shabbat. Et puis, une cinquième prière, qui est celle de Neïla, mais vous avez fait référence, vous, à une prière qui introduit la prière du soir d'Arvit, et c'est en cela que Kippour est aussi une fête tout à fait particulière, et donc c'est intéressant, j'y pense maintenant, finalement, les deux prières particulières sont celles qui ouvrent la journée de Kippour et qui la terminent, donc c'est très symbolique. Alors la prière de Kol Nidre, elle est très surprenante, Jean, parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment une prière. Je vous renvoie d'ailleurs à la courte vidéo, mais très intéressante, qui a été donc produite par le Consistoire et dans laquelle intervient Rav Smerla, notre Dayan, donc c'est dans ses séries de vidéos sur les fêtes. Elle est sortie il y a quelques jours et elle nous explique la particularité de cette prière de Kol Nidre, qui n'est en réalité pas une prière, mais plutôt une déclaration solennelle d'annulation des vœux. et donc qui tombe de manière très très surprenante.
On le fait avant Rosh Hashanah, en général, on fait toute une prière, on tape sur le dos avec une ceinture.
Alors ça, je sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous à la maison, genre. Voilà. Nous n'avons pas spécialement la tradition chez nous de nous frapper avec des ceintures sur le dos,
mais voilà. Chez les Sfarades,
ça, genre, je vous rappelle que nous sommes à la radio, nous sommes écoutés par le grand public. Alors, bien sûr, vous faites référence à des rites qui peuvent exister, bien sûr, qui sont très symboliques. Hein. Là, je rassure nos auditrices et nos auditeurs dans une partie de la tradition séfarade où on a l'habitude symboliquement, bien sûr. Donc, il n'est pas question de se flageller de manière très très forte, mais symboliquement, bien sûr, d'utiliser donc éventuellement effectivement une ceinture ou un autre objet pour de manière symbolique donc montrer finalement que nous expions en quelque sorte nos fautes. Il y a la cérémonie effectivement de la kapara, mais il y a également une cérémonie qui est la cérémonie de Atarat Nedarim, de l'annulation des vœux, qui se fait à titre individuel, donc on fait même parfois de manière collective, parce qu'il y a beaucoup de monde, veille de Rosh Hashanah pour certains, veille de Yom Kippour pour d'autres, voire les deux, hein, pour certains, c'est bien de la refaire, veille de Yom Kippour pour ceux qui l'ont déjà effectuée, veille de Rosh Hashanah, mais malgré tout, là, nous sommes dans une prière collective, elle concerne tout le monde cette fois-ci. C'est une déclaration solennelle que l'on répète trois fois, avec l'ensemble de la communauté, puisque tout le monde n'a pas eu forcément l'occasion de réciter la prière de Atarat Nedarim. Et puis, Jean, ce qui est important, c'est qu'elle intervient à l'entrée de Yom Kippour. Et on pourrait imaginer, ça serait quelque chose bien sûr d'un petit peu farfelu, un petit peu fou, mais on pourrait imaginer que malgré cette prière de Atarat Nedarim que nous avons récitée la veille de Yom Kippour le matin, ou peut-être même d'après pour certains même un peu plus tard dans la journée au moment de l'office de Mincha, eh bien nous ayons consciemment ou parfois de manière même inconsciente, eh bien, pris sur nous de nouveaux engagements dans le petit laps de temps entre l'après-midi et l'entrée de la journée de Yom Kippour qui nécessiterait une nouvelle annulation. Pourquoi annuler ses vœux ? Je sais qu'on a très peu de temps, donc je vais essayer de le dire de manière rapide parce que c'est très surprenant que l'on commence la journée de Yom Kippour en se focalisant sur quelque chose qui ne paraît pas être essentiel lorsque l'on aborde cette journée de Yom Kippour. Il y a plein de fautes qui ont l'air beaucoup plus graves que simplement celle de ne pas avoir tenu ces engagements, parce que ces engagements finalement sont des engagements, des fois qui sont des engagements tout à fait personnels, ou éventuellement entre nous et Dieu, enfin je veux dire, quelle importance. Alors bien sûr, au-delà du fait que nous l'apprenons clairement de nos sages, ces engagements, si nous ne les avons pas annulés, ne seront pas balayés par la journée de Yom Kippour. Nous serons encore redevables de ces engagements si jamais nous ne les avons pas annulés. Donc c'est effectivement important de les annuler. Mais pourquoi se focaliser sur ce passage-là ? Pour nous apprendre, Jean, tout simplement, l'importance de notre parole. L'importance de ne pas profaner sa parole. Pourquoi ? Parce que cette parole, eh bien, fait tout simplement que nous sommes des créatures particulières dans l'ensemble de l'œuvre du Tout-Puissant d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous distingue. L'homme se distingue par sa capacité à parler. Il y a des animaux qui font des bruits, qui sont capables de communiquer, mais la parole qui est une parole savante, qui est une parole qui vient exprimer une pensée, eh bien ça, c'est la particularité, c'est la singularité de l'homme, et l'homme doit être capable de s'illustrer en tant qu'être humain. Finalement, la journée de Yom Kippour, c'est aussi prendre conscience du rôle d'être humain qui est le nôtre. Voilà, si on se comporte comme des animaux, je parle de manière triviale et un petit peu provocante, mais volontairement, notre objectif à Yom Kippour, c'est aussi de prendre conscience de notre singularité en tant qu'être humain. Donc attention à ce que l'on dit, et commencer cette journée de Yom Kippour en affirmant que nous n'avons parfois pas été à la hauteur de cet enjeu est quelque chose de tout à fait primordial.
Justement, on parlait tout à l'heure de collectif et de personnel. Justement, Kippour, c'est un vidouille, enfin un retour personnel ou pour tout le monde ? Quand on prie, on fait quoi ? On fait pour moi personnellement ou pour toute la communauté, toute la ville, tout le pays,
Alors votre question, elle renvoie en réalité à une discussion en tout cas très très célèbre dans la Gemara, sans doute la plus célèbre dans le Talmud, la plus célèbre concernant cette journée de Yom Kippour, c'est une discussion entre nos sages, entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, Anassi, le prince, donc un des grands Tanaïm, un des grands maîtres du Talmud. Une discussion qui tourne autour de la force, la puissance de la journée de Yom Kippour. Est-ce que Itsumo shel Yom Mekaper, hein, et donc est-ce que de par la puissance de Yom Kippour qui a cette capacité à nettoyer, à laver la totalité des fautes, eh bien un homme peut être pardonné de ses fautes, donc vraiment tel un rouleau compresseur, cette journée de Yom Kippour, même sans une démarche personnelle de teshuva, de repentance, ou bien Non, il y a effectivement, et ça c'est admis par tout le monde, une puissance tout à fait particulière et une dimension presque, j'ai envie de dire, magique. Alors bien sûr, c'est un mot qui ne rend pas compte ici de la puissance de Yom Kippour, mais en tout cas quelque chose qui dépasse notre entendement et notre compréhension du monde, qui ferait que eh bien, cette journée a une capacité à laver les fautes, mais à condition qu'il y ait une démarche de la part de l'homme, une démarche de tshuva, à condition qu'en tout cas, tout du moins, que l'homme ne s'inscrive pas en faux durant cette journée du Yom Kippour par rapport à ce que représente cette journée. Il est sûr que venir provoquer, irriter volontairement Dieu le jour de Yom Kippour, de manière, par une affirmation idéologique qui serait contraire à cette journée du Yom Kippour, eh bien, risquerait d'avoir des conséquences un petit peu problématiques. Donc c'est ça, en fait, la question que vous posez tourne autour de cette problématique. Alors, on ne tranche pas la halakha comme Rabbi Yehuda Hanassi, on considère que s'il y a une force tout à fait extraordinaire, cette journée de Yom Kippour, qui peut balayer, éradiquer, laver les fautes de tout un chacun, quel que soit son niveau. Et je le dis bien, c'est très très important, il suffit qu'il y ait une démarche personnelle. Malgré tout, il faut qu'il y ait une démarche personnelle. Donc, pour répondre à votre question, Jean, eh bien, j'ai envie de dire les deux. Il y a une dimension personnelle, une dimension collective. Cette dimension collective est peut-être incarnée par la force, la puissance de la journée de Yom Kippour, qui dépasse chacune et chacun d'entre nous. C'est le jour de Yom Kippour qui pardonne, mais à condition qu'il y ait une adhésion personnel, à titre personnel, à ce que représente cette journée de Yom Kippour, et une volonté en tout cas bien de se faire pardonner ce jour-là.
Alors, j'ai dit la fête de Yom Kippour, est-ce que j'ai fourché dans ma langue ou pas?
Vous n'avez pas fourché, Jean, la Gemara nous le dit, Lo hayu yamim tovim le Israël, il n'y a pas eu de jour plus joyeux dans l'histoire du peuple d'Israël que deux journées, Jean, la journée de Yom Kippour et la journée de Tou B'Av, la journée du 15 Av. On en a parlé, je ne vais pas en reparler maintenant, j'en ai beaucoup parlé en temps voulu, même si nous n'avions pas d'émission à ce moment-là, puisqu'elle tombe en plein pendant les vacances. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très très étrange que cette journée de Tou B'Av, du 15 Av, soit mise en avant par la Gemara. Mais finalement, eh bien, il est également étrange que la Gemara nous parle de Yom Kippour en tant qu'un jour bon, un jour tov. Alors bon, oui, parce qu'il y a effectivement le pardon des fautes, donc on comprend que ce jour puisse être considéré comme un jour bon. Mais bon, chez nous, rime souvent avec aussi joie, puisque Yamim Tovim, ça nous fait penser à Yom Tov. Effectivement, Yom Kippour est également un Yom Tov, un petit peu différent des autres, puisque nous ne mangeons pas ce jour-là. Mais je vous rappelle que si nous ne mangeons pas et que nous ne buvons pas, c'est aussi parce que nous sommes ce jour-là apparentés un petit peu à des anges, à des malachim. Donc il y a une dimension, j'ai envie de dire, presque poétique, et en tout cas qui ne fait pas référence au deuil, comme c'est le cas à Tisha B'Av notamment, où là nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, et nous respectons aussi les trois autres, enfin plutôt les quatre autres interdits de la journée de Yom Kippour, mais cette fois-ci à titre de deuil. Là c'est plutôt parce que nous sommes assimilés à des malachim, à des anges. Alors pourquoi est-ce que nous sommes joyeux malgré tout le jour de Yom Kippour, et qu'il y a une raison de se réjouir? Attention, une joie, c'est exactement mesurer, le même raisonnement que pour Rosh Hashanah. Oui, mesurer dans le sens où il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'enjeu et de la solennité du jour. Mais cette solennité ne doit pas nous écraser, genre, tout simplement, parce que je viens de le dire, à partir du moment où nous sommes dans une démarche qui est une démarche d'adhésion à cette journée de Yom Kippour, une volonté de revenir vers HaKadosh Baruch Hu, de créer plus de proximité avec le Tout-Puissant, de s'améliorer à titre personnel, à titre individuel, à titre collectif, de faire mieux dans sa famille, d'être un meilleur ami, d'être un meilleur père, d'être un meilleur fils, d'être tout simplement un meilleur sujet. Et j'utilise volontairement ce mot de sujet qui n'a rien de péjoratif dans notre tradition rabbinique. Un meilleur sujet d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Parce que nous savons qu'Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il a envie de ce rapprochement. Et s'il a envie de ce rapprochement, eh bien, si notre démarche est positive, il nous pardonnera. Et s'il nous pardonnera, eh bien, nous ne pouvons qu'être satisfaits, qu'être joyeux ce jour-là. Qui ne se réjouirait pas de la possibilité de pouvoir changer son destin et son existence en l'espace de quelques instants?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez dit, il y a plusieurs prières mercredi, donc le jour du Kippour.
Oui, alors on n'a pas parlé de Neila, un mot, parce que vous m'avez demandé un mot rapide sur la deuxième prière particulière. Nous avons parlé de la prière de l'entrée Kol Nidre, et la prière de Neila, qui est une prière qui se récite dans les derniers instants de la journée de Yom Kippour. Elle va nous accompagner après Mincha, vraiment après le coucher du soleil jusqu'à donc la fin, jusqu'à Arvit, jusqu'au moment où nous allons sonner du shofar, et nous allons attaquer la prière d'Arvit. Ce moment est un moment particulier, puisqu'il correspond, il fait écho au moment où nous fermions les portes du Beth Amikdash, à l'époque du temple, donc du temple de Jérusalem. Et il y a bien sûr ici l'idée très évocatrice des portes qui sont en train de se fermer. De la même manière qu'à l'époque du temple, eh bien, c'est à ce moment-là de la journée que nous fermions les temples, les portes du temple, eh bien, ce sont les portes du ciel qui sont en train de se fermer. Alors non pas qu'elles ne soient jamais ouvertes pendant l'année, mais qu'elles sont grandes ouvertes ce jour-là, qu'il y a une facilité à recréer le contact avec HaKadosh Baruch Hu. Et donc, on nous invite à jeter toutes les forces dans la bataille. Vous savez, c'est comme un marathonien qui serait vraiment dans la dernière ligne droite, ou alors un sprinter en vélo. Je suis complètement nul en cyclisme, je déteste ça, mais il m'est arrivé de voir, malgré tout, des arrivées du Tour de France, et puis on voit ces sprinters se livrer vraiment à une bataille féroce dans les derniers mètres qui les séparent de la ligne d'arrivée pour une victoire d'étape. Eh bien, c'est un petit peu cela. Bien sûr, on espère que ce ne sera pas simplement une victoire d'étape, ce sera une victoire sur le long terme. Il faut garder le maillot jaune, c'est très important, mais il faut jeter toutes ses forces dans la bataille. On est fatigué à ce moment-là, on a prié toute la journée, non-stop. C'est très, très dur de rester concentré, et les auditrices, les auditeurs doivent nous croire. Ce n'est pas simplement dur pour un novice ou pour quelqu'un qui ne vient à la synagogue une fois par an, c'est tout aussi dur pour un rabbin, pour un chazan, pour un officiant, ou pour quelqu'un qui fréquente, un simple fidèle qui fréquente la synagogue trois fois par jour. Il est tout aussi dur de se concentrer durant cette journée de Yom Kippour pendant des heures, mais on nous invite à jeter les dernières forces dans la bataille, parce que jusqu'à la dernière seconde, eh bien, tout peut changer.
Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs prières dans la journée de mercredi, et on fait quatre fois bidouille. Une fois, ça aurait suffi, non ?
Alors, quatre fois. Très bonne question, Jean. On ne fait pas quatre fois vidouille. Je vais surenchérir sur vous. J'en fais dix fois
autant
vidouille. La prière du vidouille, qui est donc la prière de la confession. Cette prière, nous avons l'habitude donc, de nous courber légèrement et de taper sur la poitrine. Ouais. Chez les Ashkenazim, on chante même le vidouille. C'est étrange, hein ? On chante le vidouille, alors que c'est une confession où on avoue, on reconnaît ses fautes. Donc, on devrait faire preuve à ce moment-là plutôt de soumission, de pudeur. Mmh. Il y a une tradition chez les Ashkenazim de chanter, peut-être parce que justement, on veut montrer que même si nous en éprouvons sans doute beaucoup de honte, eh bien, nous sommes fiers d'avoir une honnêteté intellectuelle ce jour-là, et aussi montrer la joie que nous avons à savoir que par cette honnêteté intellectuelle et cette volonté de faire mieux et de montrer que nous avons compris où se situent nos erreurs, eh bien, HaKadosh Baruch Hu va nous pardonner. Donc, un peu dans la même idée de ce que je viens de dire. Alors, pourquoi le réciter dix fois ? Pourquoi dix fois, Jean ? Tout simplement parce que, eh bien, il y a les quatre prières, Jean, traditionnelles, où nous récitons le vidouille. Donc, les quatre premières, hein, l'office du soir, l'office du matin, Shacharit, l'office de Moussaf et l'office de Mincha. Quatre prières où nous récitons à chaque fois deux fois le vidouille. Une fois dans la Shmoneh Esrei, non pas la Shmoneh Esrei, plutôt la Amida, parce que ce n'est pas les 19 bénédictions, mais bien la prière particulière à voix basse de Yom Kippour. Nous allons réciter à chaque fois deux fois. Une fois lorsque nous récitons cette prière à voix basse, et une fois lors de la répétition. Nous refaisons le vidouille. Donc 4 fois 2, 8. Et puis il y a le vidouille que nous récitons cette fois-ci une seule fois, je le rappelle, dans la prière de Neïla, et le vidouille également que nous allons réciter dans la prière de Mincha, puisque dans la prière de Mincha, nous ne faisons pas la répétition, mais par contre dans la prière à voix basse de Mincha de la veille de Yom Kippour, eh bien nous récitons également le vidouille.
Pourquoi la répétition ? On doit faire vidouille dans la répétition ?
Oui, nous le refaisons dans toutes les prières de Yom Kippour, de la journée de Yom Kippour, lorsque l'officiant fait la répétition à voix haute de la Amida, eh bien, nous refaisons à ce moment-là, à la fin de la répétition de l'Amida, le vidouille. Donc, il y a 10 vidouim qui sont récités lors de la journée de Yom Kippour, 10 vidouim à mettre en parallèle, avec les 10 commandements. Serait un peu une manière de se faire pardonner par rapport à chacune de ces 10 paroles. Donc, il y a une symbolique très forte. Mais il y a aussi, la volonté, ici, affirmée, de permettre à chacun de pouvoir réciter le vidouille toujours avec plus d'intensité. Vous savez, le vidouille, ce n'est pas une prière facile, cette confession, parce qu'il faut comprendre ce que l'on dit et il faut y mettre de la ferveur. Alors le problème, c'est que si l'on manque de ferveur, eh bien, on passe un petit peu à côté de ce vidouille, de cette confession. Ouais. Donc l'opportunité ici nous est donnée à plusieurs reprises de pouvoir rectifier ce que l'on aurait éventuellement mal fait dans le vidouille précédent. Voilà tout simplement pourquoi est-ce qu'on multiplie le nombre de vidouim le jour de Yom Kippour, pour se donner le maximum de chances d'avoir pu faire un vidouille, une confession qui soit pleine de ferveur et qui soit en adéquation avec l'esprit de la journée.
Avant votre message, avant cette fête de Kippour, j'ai une question que je voudrais vous poser. C'est, on fait Kippour, on se repent, on dit qu'on a fait des erreurs. Est-ce qu'il y a un indice qui pourrait nous faire savoir si notre prière a été exaucée ou non ? Est-ce que Je sais pas.
Alors malheureusement, non. On avait à l'époque, à l'époque du temple du Beth Amikdash, notamment dans le cérémonial des deux boucs, hein, un indice qui nous permettait de savoir si les fautes avaient été pardonnées, c'était le blanchiment de ce fil écarlate qui était attaché sur les cornes du bouc. Malheureusement, ce rituel n'existe plus en l'absence du temple. Rejoint un petit peu ce que l'on a dit tout à l'heure par rapport à la puissance de la journée de Yom Kippour. Et encore une fois, cette confiance que nous devons avoir ce jour-là en Akadosh Baruch Hu, de par l'honnêteté de notre démarche.
Si je suis à la synagogue et que je discute avec mon collègue pendant 24 heures, ça n'a pas la même force que si je prie avec la Kéla.
Évident, Jean, que plus on met de la ferveur et plus on met de chance de notre côté que les choses se passent bien. Mais c'est déjà tellement extraordinaire de voir des gens qui font l'effort de venir à la synagogue. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire à ce micro, Jean, qu'il faut venir, qu'il faut perturber l'office ou passer sa journée ou la petite heure, voire le petit quart d'heure que certains vont passer à la synagogue à discuter avec leurs voisins. Mais il y a une démarche tellement exceptionnelle, tellement extraordinaire à voir les gens venir à la synagogue à ce moment-là parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Finalement, ils le font parce qu'ils sont portés ce jour-là par quelque chose que parfois eux-mêmes ont du mal à expliquer, mais qui les pousse à se rendre à la synagogue ce jour-là parce que c'est tout simplement c'est Yom Kippour et qu'ils se sentent appartenir à la communauté. Quand je parle de la communauté, je ne parle pas de la communauté de Strasbourg, je parle de la grande communauté que représente le Klal Israël. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc, il faut avoir de la confiance. Une confiance, encore une fois, qui n'est pas teintée d'orgueil, une confiance qui est simplement la confiance qu'a un enfant par rapport à son papa qui ne cherche que son bien et qui ne cherche qu'à se rapprocher de lui.
Voilà, avant que Lucas nous coupe l'antenne, un message.
Non, Lucas ne nous coupera jamais le micro, il ne se permettrait pas une chose pareille. D'ailleurs, je me permets de le remercier aussi à titre personnel pour le travail exceptionnel qu'il fait au sein de cette radio et au niveau de la technique. Un message personnel, c'est tout simplement d'essayer de rentabiliser au maximum le temps que l'on passera à la synagogue. Encore une fois, j'ai conscience que certains n'ont pas la force. Je le disais, c'est très difficile pour tout le monde, même pour ceux qui viennent à la synagogue tous les jours, de se concentrer. Donc bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire « venez 5 minutes ». Non, on sera content de vous voir tout au long de la journée d'Yom Kippour. Mais même pour ceux qui n'en auraient pas la force, parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à se concentrer plus longtemps, parce que pour diverses raisons, ils n'ont pas la possibilité de venir plus longtemps à la synagogue. Essayez de rentabiliser ce moment. On a aujourd'hui, et je remercie aussi nos amis qui nous ont offert de nouveaux marzorim à la grande synagogue. Nous avons des livres, des marzorim sont les livres de prières de Yom Kippour, enfin des fêtes, on les appelle les marzorim pour toutes les fêtes. Les marzorim de Kippour, ces livres de fêtes spéciales Kippour, nous avons de nouveaux livres qui nous ont été offerts, traduits en français, également en phonétique, donc avec une possibilité de suivre, de comprendre la prière. Je sais que dans nos autres synagogues, il y a également une possibilité d'avoir des livres traduit, voire même aussi en phonétique pour ceux qui ont du mal à lire correctement en hébreu. Et donc ça facilite finalement et ça invite même le novice ou la personne qui n'est pas familière des textes à pouvoir suivre, à pouvoir se concentrer. Et c'est important de rentabiliser ces moments. Ce sont des moments uniques dans l'année et il ne faut pas passer à côté. Donc vraiment, c'est ce que j'invite tout un chacun à faire en cette journée de Yom Kippour. Et je souhaite vraiment, je prie du fond du cœur pour que nos mérites collectifs, encore une fois, je dis vraiment cette association de nos mérites collectifs en ces journées de Yom Kippour puisse jouer en notre faveur et que nous soyons tous, toutes et tous, pas simplement inscrites et inscrits, mais véritablement scellés, comme nous le dirons durant la prière de Neïla, durant la dernière prière de la journée de Yom Kippour, scellés définitivement dans le livre de la vie et dans le livre de la santé.
Merci beaucoup, monsieur Gourama. Bon Kippour, comme on dit, Tzamkal. On se retrouvera en ce qui nous concerne mardi matin à 9h30. Avec le rabbin Reuven Curiat, on parlera là aussi de Kippour. Merci à Lucas pour la réalisation technique. Merci à vous. Shabbat Shalom et Tzamkal.
C'était le commentaire de la paracha de la semaine. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site internet www.radiojudaicastrasbourg.fr. Tout de suite, nous continuons avec la fête hassidique.